Hello à tous et bienvenue sur le podcast La tête en mer. Ce podcast partage des récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leurs témoignages de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. Pour cet épisode un peu spécial, je suis ravie d'accueillir sur l'épisode numéro 13 de La tête en mer, Xavier, médecin spécialisé en médecine hyperbare et subaquatique, qui a réalisé sa thèse sur les bienfaits de la plongée sur les personnes paraplégiques. Je suis plus qu'honorée et heureuse d'avoir pu interviewer une personne qui a passé tant de temps à étudier la plongée sous son aspect médical et bien-être. La notion de sport santé est quelque chose qui m'importe beaucoup et j'aimerais vraiment parler davantage de ce sujet. Car comme vous l'entendrez de la voix de Xavier, nous devons en parler. Les médecins ne sont pas assez au courant des bienfaits que la plongée, mais aussi tous les sports nautiques et outdoor, ont sur nous, les humains. Soigner les patients par la plongée, non, mais améliorer leur qualité de vie, oui. Prescrire des séances de plongée qui seraient remboursées par la Sécu, en complément de la médecine traditionnelle? Et pourquoi pas? Cet épisode est le plus long jamais enregistré jusque-là avec la tête en mer. Je ne pouvais pas m'arrêter de lui poser des questions, et j'espère que cet entretien sera plein d'apprentissage pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute, et plus que jamais, je compte sur vous pour le partager un maximum autour de l'eau. Merci à tous!
Salut Xavier, comment vas-tu en ce dimanche soir, pré-fête de fin
Salut
d'année
Audrey. Salut Audrey, ben écoute, ça va bien. Un petit peu fatigué du week-end, mais ça va bien.
Fraîchement.
Très fraîchement, oui.
Bah écoute, je suis super contente qu'on arrive à faire cet entretien ensemble. J'ai eu au téléphone il y a déjà plusieurs mois quand tu finalisais ta thèse.
Exactement.
Donc, tu as fait fac de médecine et tes études ont un lien bien particulier avec la plongée, puisque tu t'es spécialisée dans un DU de médecine subaquatique hyperbare.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Tu peux nous expliquer un peu en quoi consistent ces études?
Oh là là, ça risque d'être un petit peu long.
Ça commence par une question large.
Non, mais déjà, écoute, je te remercie de me proposer de participer à ton podcast. Je trouve ça super cool et je suis hyper content de pouvoir parler de tout ça comme ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très, très connu à la fois dans la médecine et je crois même, en fait, au niveau de la... Enfin, dans la plongée, dans le monde de la plongée, il y a pas mal de choses de cet univers-là qui ne sont pas très, très connues. Donc, je trouve que c'est très bien d'en parler un petit peu plus. Donc, la médecine hyperbare et subaquatique, en gros, ça regroupe tout ce qui est médecine qui traite à la fois les accidents de plongée et qui utilise aussi, la médecine hyperbare, donc le caisson hyperbare. Tu sais, les espèces de boîtes dans lesquelles on se met, on augmente la pression et on nous donne un peu d'oxygène très concentré à respirer pour traiter plein de choses différentes, en fait. Plein de pathologies, même des pathologies chroniques. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai découvert ça un peu sur le tard, parce que je ne connaissais pas non plus très bien. Je plonge depuis longtemps, mais je ne connaissais pas trop cette médecine spécifique. Et en fait, ça, si tu veux, ça regroupe la médecine de plongée récréative. Donc, tu vois, les petits accidents que tu peux avoir, les plus ou moins petits d'ailleurs, plus ou moins petits, importants accidents que tu peux avoir quand tu fais de la plongée récréative, comme ça, d'exploration en vacances et autres, et aussi les plongées professionnelles. D'ailleurs, je crois que dans tes interviews, je pense qu'il y avait un mec qui faisait ça, un plongeur qui bossait sur les plateformes, je crois, non ?
Complètement, oui. Ça doit être, je pense que tu fais référence à Franck, qui était plongeur dans la marine et scaphandrier aussi.
Voilà, c'est ça. Il y a tous ces mecs-là aussi qui ont besoin d'un suivi spécifique. Et donc, voilà, ça fait partie de cette médecine-là.
D'accord.
Et puis, donc, je te disais, tu as aussi l'histoire de la médecine hyperbare, donc l'hyperbarie sèche, où on met pas les gens dans l'eau, on les met dans le caisson et on leur fait respirer de l'oxygène pour, comme je disais, traiter certaines pathologies chroniques qui sont difficiles à traiter qu'autrement. Et voilà. Et donc, du coup, moi, c'est vrai que ça m'a un peu ouvert pas mal de portes.
Et ça, les caissons hyperbariques, du coup, c'est des caissons qu'on retrouve un peu dans tous les hôpitaux.
Pas dans tous les hôpitaux. Enfin, t'en as dans tous les hôpitaux des grandes villes, mais à Paris, par exemple, t'en as qu'un seul.
Wow.
Il n'est même pas à Paris, il est à Garches. Et c'est un caisson qui est, d'une génération un peu petit peu ancienne, quoi.
Voilà,
un petit peu old school, donc il fonctionne très bien. Bah, disons qu'ils sont équipés correctement, mais si tu veux, tu peux mettre qu'un seul patient dedans, alors que par exemple, je sais pas, on était allé à, je pense que c'était à Amiens, où là, le caisson, c'est carrément une pièce. C'est le truc qui doit faire 25 mètres carrés, et tu peux rentrer à 10, 12 dedans, mais t'es comme dans une pièce, quoi. Tu vois, ça, c'est les
D'accord.
générations un peu d'après. Évidemment, à Toulon, c'est comme ça aussi. C'est un énorme centre, vu qu'il y a le, tu sais, il y a le. Il y a les militaires qui sont là-bas aussi, donc forcément, ils ont besoin d'infrastructures importantes. Et voilà, enfin, dans plein d'autres villes, si tu veux, ils sont plus, entre guillemets, plus beaux. Et tu en trouves dans toutes les grandes villes. Donc, ça traite, je ne pourrais pas te dire en pourcentage, encore une fois, ça dépend beaucoup des villes. Mais par exemple, si tu veux, dans des villes comme le nord de la France, c'est très utile pour traiter tout ce qui est intoxication, par exemple, au monoxyde de carbone. Ça, c'est des trucs qu'on a très souvent, en fait, aux urgences, enfin, très souvent, assez régulièrement aux urgences. Et le seul traitement, c'est ça, c'est l'oxygénothérapie hyper bas. Et donc, ça, on a besoin d'en avoir un peu partout.
Ok, et là on est d'accord par contre, aucun lien avec la plongée, de
Ouais, non,
pathologie.
aucun lien, non, aucun. C'est les gens qui s'intoxiquent, soit, je sais pas, soit dans leur, parce qu'ils sont dans un resto où l'évacuation ou pas dans un restaurant, tiens, dans une structure où l'évacuation de l'air est mal faite. Pour les victimes d'incendies, trucs comme ça. Donc, oui, n'ont rien à voir avec les.
Ils
Avec
reviennent pas
les...
tous d'une belle plongée, quoi. Un dîner
Non,
au resto peut aussi mal se passer.
non, non. Mais du coup, ouais, le caisson, si tu veux, oui, c'est un truc qui est quand même assez. Qu'on trouve relativement facilement dans les grandes villes. Enfin, ouais, qu'on trouve dans les grandes villes. Et
Ok.
forcément, c'est plus développé dans le sud parce qu'on plonge plus et parce qu'il y a plus de professionnels
Bien sûr, ouais.
qui sont susceptibles d'en avoir besoin.
Plus on pratique, plus il y a un risque potentiel, même si on sait tous que si la
Exactement.
plongée est bien pratiquée, elle n'a pas de risque.
Ah bah il y a toujours un risque, il y a toujours un risque. C'est ça le
Il y a
truc,
toujours un
c'est que
risque,
même...
mais l'objectif est de pratiquer avec rigueur pour le maîtriser, quoi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais on sait que malgré le respect des tables et tout ça, il peut y avoir de l'accident. Et c'est des choses qu'on étudie encore pas mal, mais certaines fois qu'on n'arrive pas à expliquer, quoi.
Ok, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les accidents de plongée.
Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la physiopathologie de ce qui se passe au moment où la bulle d'azote se crée et vient boucher un vaisseau. Effectivement, il y a encore les explications physiopathologiques sont que des hypothèses, en fait. Alors, il y en
Ok.
a plusieurs, plus ou moins, tu vois, plus ou moins précises, mais ouais, les mecs hyper spécialisés sont pas toujours d'accord. Donc, c'est hyper intéressant, en fait.
C'est une activité ouais, qui est encore assez récente finalement et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants quoi, pour
Bah, c'est ça. Et puis, en fait, en médecine, tu sais, pour explorer et pour prouver les choses, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de, entre guillemets, beaucoup de moyens. Et puis,
Ouais.
comme ça, c'est déjà pas hyper développé, si tu veux. C'est compliqué, en fait, je pense, d'approfondir tout ça quand ça intéresse, on va dire, 1% de la population, quoi, tu vois. Et encore, je pense que c'est déjà beaucoup,
Exactement.
quoi.
Ok.
Ouais.
Et tu me disais justement que tu avais travaillé avec une personne qui fait des recherches scientifiques sur les effets de la plongée chez les personnes en situation de handicap. Cette personne t'a dit qu'il y avait peu de recherches faites à ce sujet en France. Est-ce que c'est ça du coup qui t'a donné envie de te consacrer ta thèse à ce sujet et plus particulièrement aux bienfaits de la plongée sur les patients paraplégiques?
Ouais, tout à fait. C'est assez bien résumé. En fait, en gros, pour valider le DU de médecine subaquatique et papare, il faut faire un mémoire. Et un des profs là-bas m'avait dit, voilà, c'était un prof qui donnait des idées de mémoire. Il m'avait dit, bah, écoute, voilà, l'handiplongée, donc la plongée en situation de handicap, c'est pas hyper étudié en France. C'est dommage. Il y a plein de choses intéressantes. Nanana, donc j'avais un peu regardé, effectivement. Comme j'étais un peu contraint en termes de temps, il fallait que j'ai des résultats un peu rapides. J'avais pas pu faire, si tu veux, un mémoire, enfin, avoir un sujet de mémoire extrêmement précis et développé. Mais du coup, j'avais essayé de faire, en gros, une photographie, si tu veux, des plongeurs en France au moment où je passais le DU, donc c'était en 2019. Donc, j'avais envoyé un questionnaire, si tu veux, simplement pour essayer d'en savoir un peu sur ces plongeurs en situation de handicap. Et j'avais évidemment mis une question pour voir un peu ce que ça leur apportait, une question ouverte là, dans mon truc Google, là, dans mon questionnaire Google. Et j'avais retrouvé des choses hyper intéressantes que je ne soupçonnais pas.
C'est un questionnaire que tu as envoyé au Andy Plongeur, du coup?
En fait, ouais, je l'ai envoyé à l'époque, il y avait 70 ou 75 clubs avec un label Andy Sub, donc qui sont capables en fait, d'encadrer des plongeurs en situation de handicap, en leur disant, bah voilà, je fais un mémoire là-dessus pour mon DU, est-ce que vous pouvez transférer ce questionnaire à vos plongeurs Andy, voilà, pour que j'ai un maximum de réponses. Et j'avais eu une cinquantaine de retours, donc c'était pas mal, tu vois, j'avais pas beaucoup de
Super.
temps. Et je trouvais que c'était pas si mal. Enfin, pour faire des stats, c'était plutôt bien. Et donc, effectivement, voilà, il m'avait répondu là-dessus. Et puis voilà, forcément, ça m'avait vachement intéressé. Et du coup, j'ai décidé d'approfondir le sujet pour ma thèse. Ouais. Et de faire un peu plus, entre guillemets, de terrain. Alors, j'ai pas pu à cause du Covid, mais bon, j'ai entre autres, et du temps. Mais j'ai pu quand même un peu plus approfondir le sujet. En étant plus précis vers la plongée pour les personnes paraplégiques.
Super, super sujet. Et est-ce que tu peux nous partager un peu les résultats de cette thèse, en quoi la plongée peut aider ces personnes? Ou bien c'est encore un
Ouais.
peu secret?
Alors non, 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 c'est pas du tout secret. Au contraire, il faut que ce soit connu de tout le monde parce que c'est. Parce que ça mérite, en fait, ça mérite pour énormément de raisons. Alors déjà, en fait, tu as des raisons. Si tu... Moi, j'avais essayé de classer, parce que quand j'ai conduit l'étude, j'ai dû faire des... Donc, en médecine, on fait des études soit qualitatives, soit quantitatives. Donc, en gros, quantitatives, c'est des stats, des chiffres, des tableaux, voilà. Et qualitatives, c'est des entretiens. Des entretiens ou des choses que tu décris. Mais il faut que ce soit, si tu veux, il faut que ce soit, en fait, il faut que ça raconte le vécu, en gros, des patients. Donc, c'est un peu une autre manière de réfléchir. Et donc, moi, j'ai interrogé cinq plongeurs Andy et deux encadrants, parce que je voulais avoir le miroir, en fait, de ce qu'ils vivaient, mais au travers aussi des encadrants, parce que c'est hyper intéressant aussi, pour après, du coup, regrouper mes données et en ressortir des conclusions. Donc, tu t'imagines bien que mes entretiens ils étaient hyper longs. J'avais en gros 7 questions, mais ça a duré entre le plus court, je pense que ça a duré 50 minutes, et le plus long, plus de 2 heures. Et parce que voilà, et forcément, ils avaient beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et après, moi, derrière, j'ai dû classer, regrouper les idées qui étaient dites par les différents plongeurs, et pour regrouper des thèmes généraux, si tu veux. Et donc moi, j'ai voulu classer ça en termes de, en gros, temporalité, tu vois, ce qui les motivait à y aller, ce qui avait déclenché, qui s'était mis à la plongée, qu'est-ce qui leur donnait envie d'y retourner, ce que ça leur provoquait, ce que ça leur apportait comme bénéfice physique au moment de l'immersion. Bénéfices physiques qui duraient, et puis évidemment bénéfices psychologiques, tu vois, tout ce que ça leur apporte. Au niveau de l'esprit, et puis ce que ça leur apporte après, et encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils continuent, pourquoi est-ce que tu vois, pourquoi est-ce qu'ils gardent en fait cette activité comme sport régulièrement. Et du coup, bah, il y avait vraiment 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 beaucoup de choses, évidemment, parce qu'en fait il y a les motivations qui sont les mêmes pour tout le monde, parce que être en apesanteur, c'est une sensation assez exceptionnelle, en fait, même pour quelqu'un qui est complètement valide, c'est déjà super. Mais pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant, pouvoir se déplacer dans les 3 dimensions, c'est quelque chose nous, on a même du mal à concevoir, en fait, tellement, en fait, c'est génial comme effet. Et surtout, c'est un effet qui est immédiat, c'est-à-dire que, OK, il faut apprendre, OK, ça peut être quelquefois un peu galère, c'est galère de s'équiper, de ci, de ça, mais une fois que tu es dedans, c'est vraiment génial. C'est des personnes qu'on... J'en parlais aussi avec des kinés, tu vois, régulièrement, qu'on essaie de ce qu'on appelle, ouais, verticaliser, tu vois, de les remettre debout pour leur redonner un petit peu la sensation qu'ils avaient quand ils étaient debout. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, parfois même douloureux, tu vois, à cause de la pesanteur. Et en fait, dans l'eau, en immersion, et bah, tout ça, ça se fait presque naturellement, tu vois. Ça se fait hyper
Ouais.
facilement. Et du coup, ça leur apporte forcément des sensations, si tu veux, extra.
Bien sûr.
Ils décrivaient eux-mêmes qu'ils retrouvaient de l'autonomie, du coup. Parce que
Incroyable.
finalement, quand tu regardes une palanquée de plongeurs, tu as vu, c'est tout calme, voilà, c'est pas la course. Et finalement, on peut ne même pas se servir de ses jambes. Et du coup, quand tu es dans une plongée où, même s'il y a un peu de courant ou quoi, ou que tu vois, tu te laisses un peu porter comme ça, et bah, tu peux difficilement dire, en fait, si dans la plongée, il y a quelqu'un qui est paraplégique ou pas. Tu vois, si c'est un plongeur paraplégique qui est autonome, tu ne feras même pas la différence. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui était, enfin, pour eux, décrit comme quelque chose de vraiment génial.
Ouais, un peu comme un retour à la normalité pendant quelques
Ouais,
instants,
c'est
quoi.
ça. Ouais, c'est ça. En fait, ils le disent eux-mêmes, ils oublient leur handicap quand ils sont sous
Okay.
l'eau. Et tu vois, ils faisaient tous beaucoup d'autres sports. Il y en a qui faisaient du ski, il y en a qui faisaient du basket, du tennis. Et en fait, ils disaient, bon, bah, ces autres sports-là, c'est cool, mais ça n'a rien à voir avec la plongée, quoi. Y a vraiment quelque chose en plus. Et j'ai envie de dire, c'est assez évident, mais même en se l'imaginant, en se disant, bah oui, effectivement, c'est vrai que tu n'as pas le poids du corps, tu n'as pas cette contrainte du poids du corps. Forcément, ça va leur faire du bien, mais en fait, ça va vraiment au-delà, quoi. C'est pas seulement ça.
Ok. Et...
Après, bah, évidemment, ce qui revenait beaucoup, c'était le, bah, tu vois, oui, revenir, enfin, découvrir le monde sous-marin. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui fascine bah, à peu près, je pense, tous les plongeurs, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est, tu vois, c'était une motivation et qu'on retrouvait chez tout le monde. Le dépassement de soi aussi, dans ces conditions-là, c'est pas forcément quelque chose d'évident, et ça leur permettait de le faire, et ça aussi, c'était quelque chose qui revenait beaucoup. Et le fait aussi que c'était assez facilement une activité qui était mixte, on appelle mixte, tu vois, qui était partagée en fait avec des plongeurs valides et des plongeurs handis, plutôt que, tu vois, je sais pas moi, bah, comme tu disais, tu vois, le tennis, tennis handi et puis tennis valide. Là,
Bien
la
sûr.
plongée, tout le monde le fait en même temps. Les clubs sont très facilement mixtes, et ça leur apportait aussi beaucoup.
Est-ce qu'il y a un
Voilà, on a
équipement
retrouvé aussi.
particulier? Tu parlais tout à l'heure de
Alors,
l'utilisation des jambes. Ouais, c'est vrai que.
déjà, y a une grande, grande, grande majorité des handicaps physiques, voire tous en fait, qui sont susceptibles de pouvoir faire de la plongée. Alors effectivement, quelquefois, ça nécessite une petite adaptation du matos, mais pas toujours. Par exemple, pour la combi, tu vois déjà, rien que pour nous, c'est pas toujours. Enfin,
Une
parfois c'est un peu
sacrée
galère
galère.
d'enfiler la combi. Voilà,
Un
pour des gens
culotte 7
qui,
millimètres.
voilà, pour ouais, exactement. Pour des gens qui ont plus de motricité dans les jambes, t'imagines que ça l'est encore plus. Alors, ils sont aidés, évidemment. Il y a des astuces, il y a des choses qui ont été faites un peu pour que ce soit plus facile. Par exemple, des combis avec des zips le long des jambes. Comme ça, tu vois, c'est beaucoup plus facile à
Mais
mettre.
ouais,
Sauf
maintenant.
que ça, c'est des combis qui sont hyper chers, donc ils ne peuvent pas tous les utiliser. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Et sinon, en dehors de ça, non, non, c'est le même bloc, la même bouteille, même les stages, et voilà. Et alors, si il y a certains clubs enfin, des encadrants qui me parlaient de ça, des masques, si tu veux, ou le détendeur, merci. Le détendeur est inclus, si tu veux, avec le masque, pour que ce soit plus stable et pour que ce soit plus
D'accord.
sécurisé. Mais
OK.
si tu veux, ça, ce sont des petits plus qu'ils ont parfois dans certains clubs, mais qui sont pas forcément nécessaires. En fait, les encadrants se sont toujours démerdés pour rendre les encadrants et les plongeurs d'ailleurs, pour rendre les choses possibles avec le matos qui était disponible, tu vois.
OK, c'est du confort, mais c'est pas une obligation.
C'est pas du tout une obligation. C'est pas du tout une obligation. Et
Super.
pareil, enfin, ça aussi, on en a parlé plusieurs fois. Tu sais, il pouvait y avoir ce qu'ils appellent un palan, c'est un, tu sais, comme une espèce de lève malade pour la mise à l'eau. Et en fait, ça, il disait que c'était quasiment jamais utilisé parce que finalement, c'était plus galère que d'avoir des techniques, tu vois, de mise à l'eau step by step avec l'aide des encadrants, mais qui était en fait souvent plus facile que d'utiliser ces trucs-là. Donc, en fait, ce qui a été quelquefois inventé n'a pas, même pas toujours, toujours été utile, quoi.
Ça marche. Et sur le, pour revenir sur le palmage, du coup, est-ce qu'il y a là des techniques
ouais, bah,
particulières
faut...
de palmage ou...
Si, bien sûr, ils ont des palmes pour la stabilité, mais qui sont pas, si tu veux, qui n'ont pas d'utilité directe, quoi.
D'accord.
Mais si, ils ont des palmes, ouais. Et donc, en fait, si tu veux, pour expliquer aussi quand même un peu, parce que ça, c'est important, quand une personne en situation de handicap veut plonger, les encadrants leur font passer un test. Et en fait, si tu veux, en fonction du test, alors c'est assez simple, hein, c'est de voir s'ils sont capables de comprendre et de communiquer les signes sous l'eau et d'enlever et de remettre le détendeur dans la bouche. Attends, il y a un troisième truc, je crois, de s'équilibrer, il me semble, avec le gilet, de manière indépendante, ils sont considérés en handicap modéré. Et ceux qui ne sont pas capables de le faire sont classés, entre guillemets, en handicap sévère. Et donc là, il y aura besoin de deux encadrants, alors que l'autre, on n'a besoin que d'un seul. Et ça, du coup, ça conditionne pas mal après la pratique. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est quand même très, très réglementé. Et ça, quelquefois, ça pose problème parce qu'il y a des plongeurs. Moi, j'ai interrogé des plongeurs qui étaient sûrement plus, je pense, même plus à l'aise que moi, tu vois, plus à l'aise que des plongeurs valides. Et sauf que, à cause de ces règles et à cause de ces histoires particulières d'assurance, etc., de club, ils sont obligés d'avoir un encadrant toujours avec eux. Et forcément, pour les clubs, tu vois, ça a un certain impact, quoi.
Il y a beaucoup de clubs en France qui sont des handi-clubs, du coup, ou alors tu parlais d'une, je crois, d'un label handi-sub.
Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, aujourd'hui, on parle de, voilà, c'est handi-sub, c'est une, comment on peut dire ça, c'est un label, ouais, c'est un label qui harmonise un peu les règles de la pratique de la plongée chez les personnes en situation de handicap. Et où je te disais à l'époque, moi, c'était en 2019, il y en avait, je pense, 75, un truc comme ça. 75 clubs relativement bien répartis, évidemment beaucoup plus dans le sud, mais il y en a pas mal aussi en Ile-de-France. Je ne sais pas ce que c'est par rapport au nombre de clubs en France qu'il y a au total, mais moi, de ce que j'ai cru comprendre...
C'est pas ridicule, quoi. Il n'y a pas 3-4 clubs qui...
C'est pas ridicule, mais c'est pas encore... tu vois, s'il y en avait plus, ce serait mieux, quoi.
Bien évidemment, tu vois. C'est clair. C'est clair, j'essaie de rechercher la petite donnée, combien de clubs en France pour essayer de sortir un
ouais,
peu de ça.
Ouais, c'est intéressant, ouais, je ne saurais pas trop dire
ouais,
après, ouais, ouais,
de,
ouais.
De trouver, de dire. Et quelles adaptations, du coup, sont nécessaires pour un club, d'après toi, parce que je n'ai pas l'impression, en tout cas sur l'équipement, du coup, qui est, tu disais, ça peut être du confort si les clubs... fournissent voilà, du matériel un peu adapté, mais ce n'est pas une obligation. Donc finalement, il y a peut-être cette contrainte quant à l'encadrement, le nombre du coup d'instructeurs.
Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est principalement ça, de ce que j'ai entendu. Et voilà, mais après, mon expérience, elle se limite tu vois, à l'Île-de-France et aux gens que j'ai interrogés. Mais j'ai compris que souvent, les clubs n'avaient pas suffisamment d'encadrants qui étaient agréés, entre guillemets, enfin d'encadrants handi-sub, pour pouvoir, qui sont capables de gérer, si tu veux, des plongeurs en situation de handicap.
D'accord.
Ça, c'est quand même un facteur assez limitant. Après, il y a des formations qui sont faites plusieurs fois par an. Tu vois, c'est un truc qui peut... Qui, si c'était plus connu, je pense que ça se développerait bien. Enfin, c'est, je pense, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Et voilà, je pense que c'est un facteur limitant. Après, pour le matériel, tout dépend aussi des types de handicap que le club accueille, tu vois. Typiquement, bon, bah, si c'est un club orienté paraplégie, tétraplégie, il leur faut quand même des fauteuils roulants qu'on prête aux plongeurs pour aller, tu vois, du vestiaire à la piscine, parce que c'est pas les mêmes. Et ça, tu vois, ça a aussi un coût, c'est aussi une orga, tout ça. Alors que, par exemple, je ne sais pas si tu trouves un club qui accueille des plongeurs, par exemple, autistes, des jeunes autistes, bon, bah là, il n'y a pas besoin de tout ça, tu vois. Par contre, il y a besoin des encadrants qui connaissent et qui sont un peu dans cet univers-là. Donc, c'est vrai, je trouve que c'est très encadrant dépendant, en fait.
Qu'un encadrant puisse accompagner une personne en situation de handicap, il doit avoir été formé à cela.
Ouais, tout à fait, ouais. Je pense que c'est quand t'es niveau, je me souviens plus les niveaux français, parce que moi j'ai fait le PADI, mais niveau 4, je pense que niveau 4, niveau tu peux 4, déjà encadrer des plongeurs, et bien à partir de là, tu peux passer le niveau encadrant en 10 sub, et je pense que ça dure 3 jours, c'est un long week-end, tu vois, où il y a un peu de théorie et beaucoup de pratique, pas mal de pratique. Surtout et voilà et donc c'est finalement pas hyper compliqué, mais c'est juste que c'est peut-être pas hyper connu, quoi.
Ouais, c'est ça. T'as souligné ça juste avant dans ton élocution. Tu disais qu'en effet, pour toi, le souci, c'était pas forcément les adaptations nécessaires pour un club, mais plus le fait que ce soit pas connu, et ça m'a interpellée. Tu penses que ouais, on n'en parle pas assez que la plongée puisse être en fait un sport accessible aux personnes en situation de handicap.
Bah complètement, complètement. Et ça, je le dis. Enfin, je le dis parce que, enfin, je m'en suis rendu compte, mais on me l'a aussi énormément répété. Et même moi, enfin, si tu veux, même avant de travailler là-dessus, je savais pas non plus, tu vois. Enfin, je m'en serais douté, mais je me suis pas dit que c'était entre guillemets aussi accessible et autant, ouais, autant faisable, quoi, tu vois. Ouais, il y a vraiment, et ce qui est dingue, c'est que c'est pas connu à la fois dans le monde de la plongée et dans le monde de la médecine. Et c'est pour ça que moi, c'était le sujet que j'ai traité à pas mal plus, si tu veux, dans la fac, parce que, en fait, il y avait aucun prof qui avait l'idée que c'était possible. Et c'est quand même super dommage, quoi.
C'était une question que je voulais te poser. Ouais. Est-ce que tu penses que les médecins sont suffisamment informés des bienfaits de la plongée, mais aussi de toutes les activités nautiques, surf, natation, paddle, sur les humains?
Bah non. Non, je sais qu'on n'est pas assez, au courant. Après, encore une fois, tu vois, je parle dans mon cas, mais peut-être que dans les universités plus proches de la mer, ils sont un peu plus au courant, j'espère. Mais en tout cas, nous, clairement. En Ile-de-France, non, c'est vraiment pas connu du tout. Et il y a vraiment des grosses lacunes. Ce qui revenait aussi comme facteur freinant aussi à la pratique, c'était qu'il y avait pas mal de médecins qui se retrouvaient avec des patients en situation de handicap hyper variés, qui leur demandaient un certificat pour faire un baptême de plongée. Et les médecins disaient « Ah bah non, moi je signe pas ça », tu vois, parce qu'ils savent pas. Parce qu'ils savent pas et que c'est bon, bah c'est. On ne peut pas leur en vouloir, tu vois, mais c'est très dommage, tu vois. C'est très dommage que ces personnes-là qui peuvent se faire un bien vraiment énorme soient bloquées avant même de pouvoir commencer, tu vois, juste à cause de ça. Juste parce qu'il n'y a pas assez de pub et que ce n'est pas assez connu et c'est-à-dire enseigner, mais tu vois, au moins qu'on ait une notion, quoi. Au moins qu'on sache que c'est possible et qu'on ait les clés. En gros, moi, c'était un peu ça, l'objectif final de ma thèse, c'était parce qu'il forcément, il faut que ça colle quand même avec la médecine générale. J'étais bien obligé. Donc, je l'ai tourné pour que ce soit vraiment une pub pour cette activité et pour que les médecins généralistes prennent conscience que c'est possible et les clés, tu vois, et deux, trois notions pour l'expliquer. Parce que c'est bien de dire c'est possible, mais il faut aussi derrière pouvoir dire ok, ça se passe comme ça, le baptême c'est gratuit, c'est toujours gratuit, nanana. Après quand vous, si vous voulez vous engager, bon bah voilà, il y a des frais, mais enfin ça c'est pas énorme non plus. Il y a une organisation qui est tout autour du club pour faciliter l'accès à la piscine, tout ça, enfin si tu veux, tout ça roule bien, tout ça fonctionne bien, mais ça manque de
communication, quoi. Une fois que les médecins sont sensibilisés à ça.
Et pour te dire, moi j'avais un résultat qui était quand même assez moi qui m'a que j'ai il m'a fait un peu halluciner, c'est que sur les cinq handi plongeurs que j'ai interrogés, il n'y en a aucun dont on a parlé de la plongée, que ce soit en rééducation. Tu vois, après leur accident ou même voilà, par le corps médical, si tu veux, par leur kiné, tout ça. Je crois qu'il y en avait un, mais c'était genre, tu vois, je sais plus, le kiné remplaçant de machin, tiens, il y a peut-être ça qui est possible, mais tu vois, c'était vraiment, ils savaient pas, quoi.
Le hasard, quoi. Comment ils en
Complexe,
sont
ouais.
venus du coup à faire de la plongée?
Et bah, alors, il y en avait deux qui plongeaient déjà avant et donc, du coup, qui se sont renseignés et qui ont vu que c'était possible. Il y en avait un qui savait parce que il connaissait l'univers de la plongée par son père et donc il avait vu aussi que c'était possible. Il y en a un qui a eu la chance de voir, enfin, d'avoir un groupe d'un club, je ne sais plus quel club d'Île-de-France qui était venu à Garches en rééducation pour proposer des baptêmes. Les mecs venaient et disaient, bah, écoutez, voilà, nous, on peut vous faire un baptême, vous essayez. Comme ça, si ça vous plaît, après, derrière, vous pouvez faire de la plongée. Enfin, vous pouvez vous engager pour en faire plus régulièrement. Et puis, voilà, c'était à peu près comme ça. Ou alors, si tu veux, c'était des potes à eux, paraplégiques, qui plongeaient, qui disaient, bah, viens essayer, qui ont commencé comme ça. C'était pas mal de
Des coups de bol,
communication.
quoi.
Ouais.
Ça marche, oui. Parce que tu témoignes que ça se démocratise un peu quoi, parmi les soins proposés.
Un peu,
Et
mais pas au travers de la médecine et du soin en général. Et ça, c'est quand même dommage.
on a parlé des bienfaits de la plongée sur les personnes paraplégiques, donc pendant la plongée. Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça peut carrément soigner ces personnes-là?
Bah, là c'est un peu ambitieux comme question et comme potentielle réponse. Il y a un potentiel en tout cas. Alors, pour moi, ce que j'ai étudié, bien sûr que non, hein, tu peux pas traiter une paraplégie avec la plongée. Par contre, tu peux améliorer la qualité de vie et améliorer beaucoup de choses grâce à cette pratique. Pour d'autres handicaps, d'autres soucis, je ne sais pas si on peut dire que ça peut traiter, tu vois. C'est un mot qui, à mon avis, est un peu touchy, mais améliorer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, oui, ça, c'est possible.
Ça peut faire
C'est
partie en fait du traitement, quoi. C'est pas voilà, c'est en fait pour toi, ça vient en complément de la médecine traditionnelle.
bah, en fait, ouais. En fait, moi, j'aurais bien aimé pouvoir dire à la fin de ma thèse, ou même si là, tu vois, on continue un petit peu le boulot parce que voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai pas envie d'en rester là, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je m'étais même dit à un moment, enfin, peut-être qu'on peut même arriver, si on arrive à aller loin dans l'épreuve, si tu veux, que ça a beaucoup de bénéfices. Carrément, au moment de pouvoir se dire, bah, vas-y, en parler à la Sécu et dire, bah, est-ce que je pourrais pas prescrire des séances de plongée, tu vois. Ce patient-là, je sais pas moi, il est hyper intéressé, voilà, je suis convaincu que ça peut lui faire beaucoup de bien. Pourquoi est-ce que je pourrais pas le prescrire? C'est pas, si tu veux, c'est pas complètement farfelu comme raisonnement, parce que voilà, ça apporte beaucoup de choses. Dans certains cas, moi j'ai parlé avec des encadrants, dont une qui encadrait beaucoup de jeunes autistes avec des tableaux assez sévères, tu vois, avec quasiment aucune communication, un développement vraiment, 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 vraiment compliqué. Et depuis qu'elle le faisait plonger, là, cet enfant-là communiquait de mieux en mieux, avait plus de relations sociales. Tu vois, était plus ouvert, alors qu'il partait vraiment de très loin. Et
Wow,
ça, si
bluffant.
tu veux, ça, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de preuve, si tu veux, scientifique, parce que c'est un case report, tu vois, c'est un cas, voilà.
C'est ça.
Peut-être que si, on peut très bien dire, peut-être que s'il avait fait, je sais pas, du ski, ça aurait fait pareil, mais quand même, tu vois, pour le coup, non, c'était pas du ski, c'était de la plongée. Et donc, ça donne envie, si tu veux, ça donne
Bien
envie de
sûr.
croire qu'effectivement, il peut y avoir un apport, un bénéfice thérapeutique. Ouais, on pourrait presque dire ça, sauf que, bah, voilà, on manque de papier, on manque de preuves scientifiques pour étayer tout ça. Mais franchement, hein, c'est pas impossible que que ça vienne et que dans quelques années, on puisse prescrire de la plongée. Ouais, ce serait, ouais, j'adorerais que ça se passe comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être que ça ne marchera pas sur tout le monde, mais si ça marche sur 2 personnes sur 10, j'en sais rien, c'est déjà ça, quoi. Donc, tentons le truc, quoi, plutôt d'essayer d'empêcher les gens ou de les restreindre. Et du coup, bon, j'avais une question et je pense que je connais la réponse. C'était, est-ce que soigner par le sport ou par des activités outdoor, donc en pleine nature, ça te paraît cohérent?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, ça, pour le coup, là, pour le coup, il y a pas mal d'études à l'appui. Effectivement, ça a été prouvé et reprouvé que toute activité physique, encore plus en espace vert, est hyper bénéfique. Sur le moral, évidemment, sur le physique, sur les bénéfices cardiovasculaires, ça a été vu 150 000 fois, donc ça, c'est vrai pour tous les types de population. Et du coup, c'était marrant parce que y avait vraiment beaucoup de papiers sur les bienfaits des espaces verts, mais par contre, tu vois, des espaces bleus, enfin de la mer, ça manque un peu, quoi. Alors que pourquoi pas, en fait. Il y a un potentiel, à mon avis, énorme qui mérite vraiment d'être secoué, quoi.
Exploité, ouais. Il y a un autre podcast qui s'appelle Ocean Therapy j'avais écouté un épisode qu'elle avait fait avec un médecin qui est basé à Biarritz et qui lui littéralement préconisait même prescrivait des leçons de surf ou de paddle ou de natation à ses patients. Du coup, tu as soulevé un sujet important tout à l'heure, c'est est-ce que c'est du coup remboursé par la Sécu? Il n'en parlait pas dans l'épisode et je ne pense pas, sinon ça se saurait. Mais littéralement, c'était intéressant d'entendre parler à un médecin, on va dire un peu traditionnel, qui clairement recommandait ce genre de choses à ses patients. Je me dis, tu vois, dans les médecins que je peux aller voir actuellement, je bouge pas mal, donc j'ai pas trop de médecins traitants et je vais voir différents médecins. Et en fait, je me dis, rarement on me dit, si vous avez un rhume, je sais pas quoi, peut-être manger mieux, ou en fait tout de suite ça va être vraiment axé sur le médicament, et pourquoi pas essayer aussi d'autres choses, donc par la nourriture, par le sport, par l'outdoor. Et je trouve que quand quelqu'un nous dit ça, et d'autant plus un professionnel, du coup un médecin, ça a de l'impact. Tout de suite on se dit, waouh, ok, il me dit ça, ça vaut le coup d'essayer. Je vais essayer de revoir un peu mon régime alimentaire. Je vais essayer, ok, je suis pas en forme, mais il m'a dit d'aller marcher, allez, je vais essayer d'aller marcher un peu. Je pense que c'est motivant aussi de l'entendre de la part d'un professionnel, ça a son poids, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça devrait être beaucoup plus fait, en fait, effectivement. Alors, ça fait quelques années que ça existe, l'histoire du sport santé, du sport sur ordonnance. Ça existe déjà. Mais si tu veux, c'est prescrire, je sais pas moi, une heure de marche, une heure, enfin, tu vois, c'est des trucs, si tu veux, qui sont, c'est par exemple, des sports en groupe, des choses comme ça, des séances de natation, je pense que tu peux prescrire aussi parce qu'il y a le prof. Mais si tu veux la prescrire de la plongée aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Tu vois, mais pourquoi pas, franchement.
J'avais entendu dire, c'était Guillaume Néry qui en parle beaucoup, de l'apnée. Il avait fait pas mal d'interventions aussi dans les facs de médecine à Nice. Ouais. Et c'est là où j'avais entendu pour la première fois cette notion de sport santé. Donc, j'ai pas trop d'infos à ce sujet-là, mais a priori, l'apnée serait quand même un sport santé, donc serait recommandé par certains médecins. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être déjà un peu plus connu finalement sur l'apnée, alors qu'en fait, peut-être que l'apnée est moins connue que la plongée, mais du coup, en tout cas, sur le sujet de la médecine, donc de recommander ces activités-là pour des thérapies un petit peu, peut-être que l'apnée est déjà plus avancée que la plongée bouteille.
Je pense. Encore que, à mon avis, ça reste quand même très marginal, malheureusement, mais oui, complètement, l'apnée aussi. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai un peu une notion pendant mon DU, et aussi de mon côté, je me suis un peu intéressé à ça, et effectivement, je suis convaincu aussi que là-dedans, il y a beaucoup de choses à faire, y compris pour les personnes en situation de handicap. Vraiment, ouais, je pense que l'apnée, c'est plein de ressources, ça apporte plein de choses qu'on décrit, si tu veux, comme ça encore un peu, mais qui sont pas. Tu sais, on a toujours besoin de, voilà, de preuves un peu appuyées, quoi, pour prescrire et pour dire que, voilà, que effectivement, c'est mieux qu'autre chose. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a un énorme potentiel, et aussi, effectivement, avec l'apnée, ouais. Ouais. Comme ça, je connais un peu moins, j'aurais du plus de mal à dire à mes patients. Bon, bah, allez-y, faites un petit peu d'apnée, ça ira mieux. Alors que la plongée, dans certains cas, je me sens un peu plus légitime d'en parler, tu vois. Bien que ça reste
D'accord.
très, très occasionnel, là, ouais, j'ai un peu plus de notions, quoi.
Ouais, donc c'est là où tu dis finalement c'est peut-être juste un manque de communication. Si peut-être que toi, si tu étais sensibilisé du coup sur les bienfaits de l'apnée, tu serais peut-être un petit plus à même d'en parler ou
Oh,
peut-être de
complètement,
recommander du coup un spécialiste ou.
complètement, complètement, ouais.
Et je pense que tu as entendu parler de cette étude. Moi, elle m'avait marqué énormément. On a envoyé, alors 5 ou 6, je ne sais plus le détail, mais rescapés des attentats du Bataclan en Guadeloupe.
Ouais, en Guadeloupe, ouais.
Ouais, faire de la plongée. Alors, cette étude, elle est documentée par un petit reportage, je pense qu'on peut retrouver sur YouTube assez facilement, qui, du coup, donc là, voilà, le montage vidéo montre la semaine en Guadeloupe pour ces 5-6 personnes-là. Et à la fin, tu as les témoignages. Et j'en ai encore des frissons dans le dos, tellement les témoignages sont poignants. Il y a notamment
Ouais.
une dame qui explique donc depuis l'épisode du Bataclan, elle ne dort plus. Et que là, après une plongée, elle a dormi 5 heures d'affilée sans se réveiller. Et tu sens que pour elle, mais c'est waouh, quoi. Enfin, elle a fait
Ouais,
la
ouais,
nuit
ouais.
de sa vie, quoi. Et tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Et en fait, bah ouais, elle décrit que l'état méditatif dans lequel elle a été pendant cette plongée, le fait d'être sous l'eau, et peut-être, alors il y a des trucs ouais, un peu perchés parfois, on se dit, bon, c'est un peu un retour dans le ventre de notre maman.
Ouais.
Enfin, bref. Peu importe que ce soit perché ou pas, c'est génial, juste le ressenti est là
Et
et qu'il
voilà, c'est
est dans
ça.
la personne,
Ouais,
quoi.
ouais.
Et
Ouais, complètement.
ouais.
Ouais, bah, cette étude, elle avait même été, je pense qu'ils ont fait une deuxième version avec un peu plus de patients.
D'accord.
Effectivement, avec des résultats extra. Enfin, c'est, alors là encore, c'est encore des petites cohortes, donc tu peux difficilement prouver quoi que ce soit. Mais c'est vrai que les témoignages sont assez hallucinants. Et ouais, sur, alors, la question du stress post-traumatique, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, le changement de
Exactement.
condition psychologique et psychiatrique après un événement traumatisant comme ça. Et ça, moi, je m'étais pas mal renseigné aussi. Et aux États-Unis, ils sont assez branchés là-dessus, notamment avec les militaires, en fait, qui reviennent et qui sont complètement cuits, entre guillemets, de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Et la plongée, eux, les Américains, du coup, les poussent beaucoup à en faire. Et justement, moi, quand j'ai fait mon dive master au Mexique, il y avait un militaire, effectivement, qui était en reconversion et qui du coup, s'était fait payer par je sais pas quelle assurance, tu vois, des États-Unis, du coup, sous son dive master. Et il disait que ça lui faisait beaucoup bien, hein, enfin que c'est les gens qui vivent avec ce genre de troubles, c'est vraiment des quotidiens hyper compliqués. Et effectivement, la plongée semble vraiment vraiment aider, et surtout aider sur le long terme, tu vois. C'était pas juste, ok, il a bien dormi après sa plongée, en fait, comme tout le monde. Non, non, c'est vraiment, tu vois, l'état de bien-être est assez prolongé.
Ok, c'est ce que je me demandais, parce que sur ce reportage-là, il parle pas. Enfin, c'est vraiment du coup voilà, le ressenti sur le moment.
Ouais,
Et donc je
en
me posais la
live,
question, est-ce que c'est que en fait le bienfait est juste après la plongée, mais après c'est terminé?
non, ça dure, enfin, dans ce qui est décrit, dans moi, ce que j'ai lu, ça dure quand même.
Trop bien.
Ouais, c'est ouais. Et même, moi, les plongeurs que j'ai interrogés, hein, ils disent qu'ils ressentent, enfin, pas tous, mais tu vois, certains disent que, tu vois, au bout de, ouais, commencent à ressentir qu'ils ont de nouveau un peu plus mal dans le dos, de nouveau, voilà, le sommeil un peu moins stable au bout de 3 semaines sans plongée, tu vois. Donc ça,
D'accord.
c'est quand même pas rien, quoi, tu vois. 3 semaines, c'est, ouais, c'est
Ouais, c'est long, je pense, pour des personnes qui dorment déjà, ouais, pas bien. Qui
ah
dorment pas
voilà,
bien,
ouais.
c'est 3 semaines de sommeil, je pense que c'est incroyable.
Bah voilà, ouais. Donc ouais, non, effectivement, ça fait partie de la thérapie complètement, ouais, complètement.
Est-ce qu'il y a des contre-indications pour pratiquer la plongée, d'après toi, alors que ce soit en fait pour les personnes en situation de handicap ou même des personnes valides?
Alors oui, il y en a, oui, effectivement, il y en a quand même. Il y en a toute une liste que j'aurais du mal à te faire comme ça de tête, mais il y a effectivement beaucoup de, enfin, certaines malformations pneumo qui font que tu peux pas plonger, cardiologiques aussi, ORL, qui font que tu risquerais un barotraumatisme pneumo potentiellement fatal à la remontée. Donc oui, non, c'est quand même pas complètement anodin comme activité. Donc oui, il y a des contre-indications et qui sont quand même difficiles pour le coup, qui sont pour certaines impossibles à contourner, pour d'autres peut-être un peu plus, avec un peu de surveillance. Mais oui, évidemment qu'il y a des contre-indications qu'on appelle absolues, c'est-à-dire que c'est même pas discutable, tu vois. Ouais.
Je te pose cette question, je me doutais qu'elle allait être un peu piège et que tu n'allais pas me sortir toute la liste des contre-indications. Mais je te pose un peu la question aussi, ben, exprès, on va dire. J'ai entendu quelques histoires en fait, de personnes qui faisaient de la plongée et qui ont eu des accidents. Alors, pour le coup, c'est plus des. J'ai en tête un infarctus et un AVC. Et les personnes pensaient que la plongée, c'était fini pour eux. Et en fait, non, quoi. C'est pas. C'est
Non,
un.
non, AVC, non, 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 non,
Il y a
non.
un autre épisode que j'aimerais beaucoup faire avec cette personne que j'ai rencontrée. C'est une femme et elle a eu un AVC sous l'eau, en fait, pendant la plongée. Donc,
Ah putain, ah
j'ai
ouais.
quelques bribes de son histoire et c'est assez incroyable. Mais maintenant, je suis allée plonger avec elle et elle replonge tout à fait normalement. Donc, je trouve aussi intéressant, en fait, OK, il y a des contre-indications et tout, mais en fait, ça vaut le coup, je pense, de s'en assurer. Et peut-être que même si vous croyez que non, vous ne pouvez pas faire de plongée, peut-être qu'il y a quand même possibilité, quoi. Je pense que ça vaut le coup d'avoir un avis médical.
C'est même indispensable, ouais, dans une situation comme celle-là, effectivement. Ouais, il vaut mieux qu'on soit certain qu'il n'y ait pas de risque que ça récidive. Après, malheureusement, on n'est jamais certain, mais effectivement, ouais. Oui,
Exactement,
non,
oui.
c'est important. Ouais. Après, tu vois, par exemple, ces choses-là, ça évolue aussi un peu parce que, par exemple, moi, tu vois, je suis diabétique depuis que j'ai 6 ans et pour faire ma première plongée, voilà, j'ai plongé, je pense que j'avais 12 ans. Ouais, le médecin faisait un peu la gueule pour faire mon certificat, tu vois. Et
D'accord, ah oui.
ça m'a un peu marqué. Et ouais, moi, ouais, enfin, effectivement. Alors que si tu veux, bon, effectivement, il y a un risque, tu vois, il y a ces pathologies qui fait que, voilà, si je fais une hypo un peu sévère, je peux perdre connaissance. Donc, forcément, sous l'eau, on n'est pas fana de perdre connaissance. Mais si tu veux, c'est pas un truc qui arrive très souvent, heureusement. Et voilà. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus détendu, par exemple, avec les patients diabétiques. On est moins pareil avec les patients asthmatiques. Tu vois, pendant très longtemps, c'était une contre-indication définitive. Depuis quelques années, on s'est rendu compte que, bon, si l'asthme est bien équilibré et qu'il n'y a pas de crise trop fréquente, finalement, la plongée, elle se passe très bien la plupart du temps, tu vois. Même quasiment à chaque fois. Donc, ça, c'est des choses aussi qui peuvent un petit peu évoluer et qui mérite, ouais, d'être aussi un peu détaillé, ouais.
Sur mise en avant, quoi. Et tu disais tout à l'heure, donc tu as passé ton master au Mexique, donc tu es guide professionnel de plongée. À quel moment, du coup, tu as fait le lien entre la plongée et ta carrière en médecine? Est-ce que c'était évident que tu allais te spécialiser en médecine hyperbare quand tu as
Non,
commencé?
non, 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 clairement, c'était pas évident. C'était pas évident. Alors après, ouais, effectivement, j'ai pas un parcours comme d'autres que tu as interrogé qui ont tout plaqué pour après faire que de la plongée ou quelque chose en lien avec la plongée. Non, c'est sûr que j'ai pas non plus ça, mais effectivement, j'y ai pas pensé tout de suite. J'ai toujours été fan de plongée voilà, parce que je trouve que c'est trop cool comme activité et voilà, et j'adore en faire dès que je peux. Après, moi, j'ai fait médecine en me disant initialement que je ferais de la chirurgie. Puis, pour plusieurs raisons, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon délire, finalement, cette vie-là. Et puis, que j'aurais sûrement pas le niveau de l'avoir à l'internat. Et effectivement, je ne l'ai pas eu. Donc, comme ça, c'était réglé. Donc, j'ai fait de la médecine générale parce que ça m'intéressait aussi et qu'en fait, ça m'ouvrait aussi pas mal d'options. Quand tu fais de la médecine générale, tu peux faire beaucoup, beaucoup de DU pour devenir spécialisé dans des domaines très spécifiques, y compris la plongée. En fait, moi, ça m'est venu. Comment ça m'est venu? J'ai regardé en fait tout simplement la liste des DU quand je suis arrivé à Paris. J'ai vu qu'il y avait celui-là et en fait je ne connaissais même pas au début. Et je me suis dit, mais vas-y, c'est trop cool de faire la médecine de plongée. En fait, ouais, c'est ça que je veux faire. Donc, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je voulais quand même commencer mon internat. Enfin voilà, j'étais pas trop pressé et tout. Et en fait, entre-temps, je me suis dit, vas-y, je vais approfondir mon côté, ma fin, ma. Mes skills entre guillemets de plongeur. Et donc du coup ouais, j'ai passé mon dive master au Mexique. Alors, je sais plus, je pense que c'était, je te dis 2019, c'était 2018. Ouais, ça c'était 2018, début 2018. C'était, si tu veux, l'objectif principal, c'était de me donner un peu plus d'expérience et de légitimité après, derrière, en tant que médecin hyperbariste, quoi.
Je
Mais
comprends,
après le dive master, je me suis jamais servi, tu vois. C'était vraiment pour me donner des notions un peu solides en plongée, pour derrière, après, voilà, pouvoir être plus à l'aise, si tu veux,
je
au moment
comprends.
du début. Bon, finalement, ça m'a pas
Ouais, t'as
forcément,
surtout kiffé,
c'était pas
quoi.
forcément clair. Voilà, mais voilà, c'était surtout pour me faire kiffer, c'était une bonne raison de me faire kiffer, quoi. Voilà.
Bon, c'est bien mérité, je pense, vu l'intensité de tes études.
Ouais.
Et pour terminer, justement, un peu sous l'eau et la tête en mer, tu me disais que tu as fait des voyages plongés un peu ouf, notamment avec ton père. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces spots où tu as pu plonger?
Bah écoute, je pense que le spot le plus ouf, c'était les Galapagos.
Pas mal.
Ça clairement, ouais, clairement là, on a vraiment pris plein les yeux du début à la fin. C'était des conditions qui étaient un peu quand même un petit peu, ouais, un peu trash. Ouais, c'était plongé avec beaucoup de courant, beaucoup beaucoup enfin pas mal de mer, donc qui n'était pas forcément des plus accessibles. Après, bon, il est chaud, il fait quand même beau, enfin tu vois, c'est pas non plus, mais qui était quand même vachement plus mouvementé que ce
Engagé.
que je pensais. Mais dès que tu es sous l'eau, par contre, c'est vrai que, enfin, c'est, tu sais, c'est une zone où les animaux n'ont jamais été chassés, il y a jamais eu de y a jamais eu trop d'impact en fait de l'homme là-bas. Et du coup, ouais, les animaux sont curieux, ont pas peur, sont vraiment, c'est, ouais, c'est incroyable, franchement. C'est de loin mon meilleur souvenir de plongée, ouais.
Génial. Eh ben écoute, on termine sur une belle une belle note. Ça nous donne bien envie à la veille des fêtes de fin d'année là, de prendre un petit billet d'avion
C'est
et
ça. Ouais.
aller se faire kiffer en plongée. Du coup, c'est
C'est
quoi les
clair.
prochaines étapes pour toi? Est-ce que tu veux pousser dans la recherche? Est-ce que tu veux te spécialiser en tant que
Bah,
médecin
écoute,
pour
je me
des plongeurs
suis.
ou...
Non, écoute, je me suis. Comme je suis remplaçant, je peux bosser un petit peu. Tu vois, je peux aussi me prendre du temps pour moi. Et je me suis posé la question, du coup, de passer mon équivalence du PADI, là, du Dive Master avec le niveau français, pour après, justement, passer mon niveau. Encadrant en 10 sub pour en fait pratiquer et donner un peu de mon temps, voilà,
Génial.
pour cette plongée là. Ouais, alors bon, là dans la région, c'est pas forcément, là où je suis, c'est pas forcément le plus simple, mais j'ai ça en tête. Ouais, j'ai ça en tête. Et puis pourquoi pas derrière, après, en fonction de là où on bouge, tu vois, me rapprocher des centres avec les caissons, et puis même des fédérations de plongée pour essayer, ouais, de participer un peu à la vie de la plongée, de l'handi-plongée. Ouais,
Ok,
carrément.
trop bien. Donc tu vas rester dans le domaine, quoi.
Ouais, je vais
Trop cool.
essayer, ouais, d'approfondir, ouais.
Bon, bah c'est une bonne nouvelle pour tous les handy plongeurs et même pour tous les plongeurs. Enfin voilà,
Ouais.
pour cette activité qui gagne à être connue, je pense.
Ah, ça.
Dernière petite question, est-ce qu'on se voit au salon de la plongée début janvier?
Et ben écoute, je sais toujours pas. Je vais faire mon maximum, mais en tout cas, on est là, donc ouais, c'est possible. Ouais,
Tu disais, ouais,
carrément.
y a un stand handisub, du coup.
Ouais, il y a un salon d'Unisub qu'il faut aller voir. Ouais, c'est que des passionnés, trop sympa. Ouais.
C'est génial,
Faut
ben.
aller voir. Ouais.
J'y passerai pour ceux qui nous écoutent. Et si jamais le salon n'est pas encore passé, c'est du coup du 7 au 10 janvier, si je ne dis pas de bêtises, à Paris, salon de la plongée. Donc c'est un peu le gros événement plongée de l'année en France. Donc
Ouais,
si
ouais,
jamais
ouais, ouais.
ça vous dit, n'hésitez pas. Et surtout, si vous y êtes, n'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram, La Tête en Mer, et je serai trop contente de vous rencontrer. Et bah écoute, Xavier, je te dis merci beaucoup.
Eh ben merci à toi.
Il est 22h15, dimanche soir, on va peut-être s'arrêter là.
Ça marche.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt!